BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Étienne Brack.
C'est bon prêt, il est 15h30. Bonjour à tous et bienvenue, c'est BFM Bourse. On est ensemble en direct jusqu'à 2h30 pour vous accompagner, pour suivre cette tendance toujours aussi spectaculaire à la Bourse de Paris avec un CAC 40 dividende réinvesti qui est sur des plus hauts historiques également pour la Bourse de Francfort, pour la Bourse d'Amsterdam. Là, Wall Street vient d'ouvrir, on verra dans un instant avec Aude Kersulec que c'est un petit peu plus mitigé avec un Dow Jones qui est en légère baisse quand le S&P et le Nasdaq sont quasiment à l'équilibre, avec notamment pas mal d'entreprises qui continuent de publier. On verra dans un instant que c'est compliqué pour Airbnb. Et puis à 16h, on reviendra sur Alstom. Souvenez-vous, hier, le groupe a publié ses résultats semestriels, a annoncé une importante augmentation de capital. La valeur avait pris 9%. Faut-il revenir sur ce dossier Alstom? Je poserai la question aux équipes de Swiss Life Banque Privée. On reviendra également sur Stellantis, qui connaît un parcours compliqué depuis la publication la semaine dernière. Et puis la news du jour, bien sûr, c'est la Banque d'Angleterre qui ouvre, ça y est, la voie à des baisses de taux. Comment faut-il interpréter le message? C'est Gilles Mouek qui sera avec nous dans un peu plus de 10 minutes dans l'écho du monde. C'est parti, c'est BFM Bourse, on est ensemble jusqu'à 18h. Et comme tous les jours à 15h30, eh bien c'est USA Today pour suivre la tendance, l'ouverture des marchés américains et Aude Kersulec qui m'accompagne. Bonjour Aude, merci d'être avec nous dans l'émission. Vous allez être notre fil rouge tout au long de BFM Bourse. Comment ça se passe à l'ouverture aux États-Unis?
C'est l'inverse de la clôture d'hier soir à Wall Street. On a le Dow Jones qui perd un petit peu de terrain. Bon, c'est quand même assez léger, hein, moins 0,14%, 39 000 points tout juste d'ailleurs. Le S&P 500 qui reste bien proche de l'équilibre, hein, 0,05% de hausse, 5 190 points. Et plus 0,15%, le Nasdaq qui reprend un peu de terrain. Il avait clôturé en baisse hier avec notamment des gros gadins dans la tech, hein, comme Uber ou encore Shopify. Le Nasdaq qui est pour le moment à 16 333 points. Et tiens, du côté des taux obligataires pour le 10 ans américain, on est à 4,50, tout juste, ça bouge pas, hein, depuis quelques jours, tandis que l'euro-dollar vaut lui 1,0760.
Dans un instant, vous allez nous parler de Airbnb, qui connaît une séance compliquée aujourd'hui à Wall Street. Mais juste avant, un petit peu de macro, avec, comme chaque jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage, elles ont été publiées il y a une heure.
Est plus élevé que ce qu'attendait le consensus. 231 000 inscriptions au chômage la semaine dernière. Le consensus, il était à 212 000 après 209 000 la semaine dernière. Donc ça monte un petit peu. La moyenne sur 4 semaines, ce qu'on dit en général est plus représentatif de la tendance de fond, eh bien, elle monte ainsi très légèrement. C'est anecdotique. On a une hausse de 250, on est à 210 000. Alors ça vient tout de même après un rapport sur l'emploi américain vendredi, donc le rapport pour le mois d'avril, qui là aussi était plus faible que prévu. Les hausses de salaire étaient plus faibles, le taux de chômage était un petit peu plus élevé, les créations d'emplois sur le mois d'avril étaient un petit peu moins importantes que ce qu'attendait le consensus. Donc le marché y a vu en début de semaine un signe d'optimisme, donc là ça ne contredit pas le rapport sur l'emploi de la semaine dernière.
Voilà donc pour cette statistique du jour. Comme tous les jours dans USA Today, on regarde ce qui se passe aux États-Unis d'un point de vue politique avec les élections américaines qui arrivent à grands pas. Ça sera le 5 novembre prochain. Et là, il y a un tournant majeur, Aude, par rapport à Joe Biden et la situation en Israël, au Moyen-Orient.
Oui, dans un entretien à CNN hier, Joe Biden a tapé du poing sur la table. Il menace de ne plus livrer d'armes en cas d'opération massive d'Israël sur Rafah. Donc la sanction consisterait à ne plus envoyer de bombes lourdes, hein, celles qui ont contribué à vraiment détruire les villes à Gaza au début de la guerre, et plutôt de continuer à fournir tout ce qui constitue la défense d'Israël, notamment le dôme de fer et les missiles anti-aériens. C'est important ce qui s'est passé hier, parce que c'est la première fois que le soutien à Israël est conditionné par l'administration américaine. Et les États-Unis ont même reconnu que les bombes américaines ont tué des civils à Gaza, des femmes, des enfants. Et on sait quand même qu'il y a une chose que Israël a perdue depuis sa réplique du 7 octobre, c'est la guerre de l'opinion, la guerre de la communication avec les images d'enfants tués. Et que ça a une incidence aux États-Unis sur la population, notamment la jeune population qu'on a vue se révolter sur les campus américains. Et on sait que ça fait des semaines que Joe Biden envoie ses Anthony Blinken notamment pour au Moyen-Orient, hein, pour dire au pays, ou à Israël, de ne pas envoyer une offensive majeure à Rafah, parce que c'est là que sont placés plus d'un million de Palestiniens déplacés par la guerre. Washington veut un plan de protection claire des civils. Pour l'instant, il ne l'obtient pas. Voilà pourquoi Joe Biden a sévi hier. Alors, c'est sûr qu'il y a des entretiens directs, hein, avec Benjamin Netanyahou, mais là, c'est aussi pour le faire savoir à son opinion publique, en vue, bien sûr, de l'élection présidentielle de novembre prochain.
Voilà donc pour ce point sur la situation géopolitique et les relations entre Israël et les États-Unis. Vous l'avez dit, l'obligataire grimpe très légèrement aujourd'hui, comme hier. Le 10 ans américain repasse au-delà des 4,5%. Et cette remontée des taux, bien sûr, elle inquiète les professionnels de l'immobilier aux États-Unis.
Et notamment un mania de l'immobilier. Alors, c'est pas celui qui se présente à la présidentielle, mais c'est Barry Sternlicht, le PDG de Starwood Capital Group, un fonds d'investissement qui possède notamment des hôtels. Donc oui, alors il a un intérêt personnel à la baisse de taux, forcément, mais il a un raisonnement aussi plus macroéconomique qui est assez intéressant, qui dit que si l'inflation résiste, c'est que les taux élevés, c'est pas le bon outil pour vaincre l'inflation, parce que les ménages ne sont pas touché. Hein. Il dit c'est une chose très simple. Les Américains, ils ont des emplois, ils ont des crédits pour la plupart à taux fixe et ils ont des revenus d'intérêt provenant de leur épargne placée sur des fonds qui leur apportent 5%. Finalement, ils vont bien donc. Et la plus grande victime de la hausse de taux, c'est le gouvernement fédéral qui lui a vu ses charges d'intérêt doubler hein, ces dernières années pour atteindre 1 000 milliards de dollars. Les banques régionales notamment ont été d'autres victimes collatérales, parce que forcément ça a jeté aussi un trouble sur les évaluations d'actifs, notamment dans l'immobilier commercial, et que ça crée un cercle vicieux parce que les villes et les municipalités dépendent des taxes foncières provenant de ces actifs commerciaux pour faire fonctionner les écoles, la police ou encore tout ce qui dépend de la communauté. Donc c'est un peu l'arroseur arrosé finalement ce qui se passe. Les administrations publiques sont les plus touchées par la hausse de taux alors que les ménages, ça va plutôt bien. Voilà pourquoi, selon lui, il faut quand même baisser assez rapidement les taux.
Et ces baisses de taux, on en parlera dans quelques minutes avec Gilles Mouek, le chef économiste du groupe AXA, qui sera avec nous. On reviendra bien sûr sur la Banque d'Angleterre et puis sur les anticipations de baisses de taux aux États-Unis qui sont très volatiles ces derniers jours. Aude Kersulek, passons désormais à l'actualité des entreprises. On est dans la dernière salve des résultats trimestriels et ça se passe pas très bien aujourd'hui pour Airbnb. La valeur perd un peu plus de 6%.
Oui, Airbnb. Alors, la compagnie qui a publié 132 millions de nuits réservées, c'est pratiquement 10% de plus que l'an dernier. Le chiffre d'affaires est lui monté de 18%. Alors, le profit, là, sur le premier trimestre, a largement été battu et les revenus sont tout juste en dessous de ce que le consensus attendait. En fait, pour beaucoup d'analystes, cette prévision en baisse hein, pour le deuxième trimestre, eh bien, c'est à cause d'une course à la croissance qui coûte de plus en plus cher pour Airbnb, notamment parce que eh bien, ça coûte cher d'acquérir de nouveaux clients, ça coûte cher en marketing et que les coûts de marketing bah, viennent amputer les prévisions d'EBITDA pour continuer d'avoir une croissance donc, de plus en plus faible. En plus, des coûts d'acquisition élevés donc, pour les nouveaux clients, forcément, c'est quelque chose qui déçoit un peu les analystes. Donc des prévisions pas à la hauteur de ce que le marché pouvait attendre, même si Airbnb essaie de rassurer hein, qu'il a vu des effets positifs, notamment un afflux de réservations au moment de l'éclipse aux États-Unis, qu'il prévoit aussi une belle période à venir pour les Jeux Olympiques de Paris. Pour le moment, ça ne convainc pas forcément le marché, puisque vous l'avez dit, la valeur est en baisse.
La valeur est en baisse, en effet, de plus de 7%, 146 dollars pour ce titre Airbnb. Nous reviendrons dans une heure avec Julien Marion de notre site BFM Bourse sur cette publication trimestrielle donc de Airbnb. Un mot quand même également du secteur des semi-conducteurs qui décidément anime de jour à jour les séances aux États-Unis avec aujourd'hui ARM hein, qui s'est introduit l'année dernière à Wall Street. Bon, aujourd'hui c'est compliqué, après il ne faut pas l'oublier, un parcours spectaculaire. La valeur perd quasiment 6% après ces trimestriels.
Ce n'est pas le même secteur qu'Airbnb, mais c'est le même mécanisme, le même schéma. Ce sont les prévisions, là aussi, les guidances données par l'entreprise qui ne sont pas à la hauteur de ce que veut le marché. C'est vrai que le marché s'est un peu emballé sur l'IA ces dernières semaines. Et là, c'est un peu la soupe, pas la grimace. Hier, lors des publications pour l'entreprise Arm, le fabricant de puces britanniques. Alors, c'est pourtant, quand on écoute la conférence call qu'a eu le PDG, les dirigeants avec les analystes, ils ont essayé de rassurer sur leur modèle. L'engouement pour l'IA a permis à notre entreprise de connaître une croissance sans précédent. Des modèles de logiciels tels que ChatGPT ou encore Llama de Meta deviennent plus grands et plus intelligents et ils ont besoin de leurs puces. Arm qui vend des licences de conception de puces à des fabricants qui payent ensuite des redevances pour fabriquer ces puces. C'est donc un modèle qui marche. Pour les revenus actuels d'ailleurs, ils étaient au-dessus des attentes. Le chiffre d'affaires était en hausse de 47% par rapport à la même période l'an dernier. Mais là, les prévisions sont jugées un peu plus moroses. Pourtant, elles sont dans la fourchette de ce qui était annoncé auparavant, mais elles ont été confirmées dans le bas de la fourchette. Donc, en fait, on reproche à ces entreprises de l'IA pour le moment d'être trop prudentes sur leurs prévisions. Et là encore, c'est sanctionné en bourse aujourd'hui à Wall Street. Le titre qui baisse en ce moment de 5,4%.
Voilà donc pour ce titre ARM, il nous reste une minute. Oetker Schulec, parlons d'autres valeurs qui font l'actualité. Bumble a publié ses résultats et puis il y a peut-être un gros deal également en cours sur Paramount Global.
Oui, c'est vrai, Paramount Global, c'est une série quand même qui continue. Il y avait une période de négociation exclusive avec Skydance et ça ne s'est pas conclu, a-t-on appris dans la presse. En revanche, il y a vraiment des rumeurs qui reviennent, celle d'un consortium qui serait intéressé pour racheter Paramount. C'est un consortium Sony et le fonds d'investissement Apollo qui offre 26 milliards de dollars donc pour s'opposer à l'offre concurrente de Skydance. Sauf que le New York Times avance que si le consortium est intéressé pour racheter Paramount, c'est pour le démanteler ensuite. Alors en fait, on aurait Sony qui aurait la participation majoritaire dans cette co-entreprise qui prendrait la bibliothèque de films de Paramount, on a notamment Le Parrain ou encore Diamant sur canapé, et qu'il allierait à sa bibliothèque à lui, et ça ferait quand même un gros studio qui serait capable de rivaliser avec Universal ou encore Walt Disney Studio. Quant à Apollo, lui il récupérait le pôle média de Paramount, notamment CBS, parce que c'est une mesure requise par les lois américaines, c'est que les médias ne peuvent pas aller à un propriétaire étranger, donc pas Sony qui est japonais. En tout cas, c'est ce que croit savoir donc le New York Times. Mais pour l'instant, ça ne sont que des rumeurs qui devront être confirmées.
En effet, et ça sera à suivre donc sur ce dossier Paramount qui pourrait faire l'objet d'un rachat à quasiment 26 milliards de dollars. Merci beaucoup, Oetker Schulec, de nous avoir accompagnés pour ce rendez-vous quotidien USA Today. Rendez-vous dans 20 minutes, aux alentours de 16h pour continuer de suivre la tendance. Mais à Paris, cette fois, tendance positive pour le CAC 40 qui grappille 0,4%, 8 166 points, record historique pour le dividende, le CAC 40 dividende réinvesti, record pour le DAX à Francfort, pour la bourse d'Amsterdam. Bref, une tendance positive en Europe avec notamment donc le CAC 40 qui enchaîne aujourd'hui une cinquième séance dans le vert.
BFM Bourse, l'écho du monde.
L'écho du monde, oui, car on a du pain sur la planche. Et c'est Gilles Mouek qui nous accompagne aujourd'hui, chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles Mouek, merci de répondre à l'appel de BFM Business en ce 9 mai. Pour revenir notamment sur cette décision de la Banque d'Angleterre qui était attendue au tournant aujourd'hui. À 13h, elle a annoncé qu'elle laissait ses taux inchangés, mais son gouverneur a très clairement ouvert la voie à des baisses de taux.
Oui, la porte est largement ouverte. Alors, à noter déjà que deux membres du Conseil de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre ont voté pour une baisse des taux dès aujourd'hui. Ce qui est donc un de plus que la dernière fois. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'un des membres dits internes de la Banque d'Angleterre qui a rejoint un membre externe pour demander cette baisse de taux rapide. Donc, on sent que, il y a une certaine ébullition au sein de la Banque centrale britannique. Et dans son intervention, même s'il s'est gardé de promettre une baisse de taux au mois de juin, on a quand même senti que tout concourait maintenant à ce que la Banque d'Angleterre puisse commencer à réduire un peu le niveau de restriction de la politique monétaire. De toute manière, on va probablement dans les deux mois qui viennent voir une baisse assez accusée de l'inflation pour des raisons essentiellement techniques hein, qui tiennent au calendrier de l'évolution des prix d'énergie. Mais ça va probablement créer la fenêtre d'opportunité pour que la Banque d'Angleterre commence à baisser ses taux. Elle va, je pense, rester prudente parce que on a toujours des signaux du marché du travail, en particulier au Royaume-Uni, qui sont des signaux de robustesse, avec une augmentation des salaires qui est tout à fait sensible. Donc je ne pense pas que la Banque d'Angleterre ira nécessairement très vite, mais voilà, la direction du voyage est maintenant assez claire.
Avec notamment des prévisions d'inflation qui ont été revues à la baisse, hein, puisque désormais la BOE prévoit 2,6% d'inflation contre 2,8%. Bon, ça c'est une bonne nouvelle pour le Royaume-Uni, pour l'Angleterre, puis c'est aussi une bonne nouvelle pour l'Europe dans son ensemble. Hein, ça confirme un petit peu la dynamique de la BCE.
Oui, on sent que dans toute l'Europe, la direction est assez convergente. On a eu une première baisse de taux de la Banque nationale suisse il y a quelques semaines. On a eu la Banque centrale suédoise hier qui a baissé ses taux de 25 points de base et qui a décidé de ne pas attendre la BCE, alors même qu'on sait que pour des raisons de contrôle de son taux de change, la Banque centrale suédoise cherche en général à limiter le plus possible la BCE. Là, elle fait le mouvement sans attendre. Bon, la situation macroéconomique de la Suède est beaucoup moins bonne que celle de la zone euro, mais je trouve que le signal est intéressant. Donc là, on est face à une espèce d'émancipation monétaire de la part des banques centrales européennes. Les signaux en provenance de la BCE sont également assez clairs pour une baisse des taux au mois de juin. Donc on aurait toutes les banques centrales, les grandes banques centrales européennes, alignées avec des baisses de taux assez synchrones sur le mois de mai ou le mois de juin. Donc ça laisse quelque part la Fed dans une espèce de splendide isolement. Même si on s'aperçoit que les toutes dernières données conduisent quand même à plutôt attendre là aussi le début de la baisse des taux du côté des États-Unis, finalement peut-être un peu plus rapidement que ce que le marché s'était mis à attendre il y a maintenant 2 ou 3 semaines, où la grande discussion sur le marché c'était l'impossibilité peut-être pour la Fed de baisser ses taux du tout en 2024. Je pense qu'on a regagné un peu plus de confiance dans le marché.
Avec notamment Jerome Powell, on se souvient, lors de sa réunion du 1er mai, qui a exclu des hausses de taux. Ça a vraiment rassuré le marché et c'est impressionnant de voir l'obligataire aux États-Unis qui s'est détendu d'une façon assez spectaculaire quand même.
Oui, c'est vrai. Alors, on a des mouvements de gouvernail du marché s'agissant de la Fed qui sont un tout petit peu trop amples, honnêtement. Au début de l'année, on avait un marché qui s'attendait à beaucoup trop de taux de la part de la Fed. Je pense que c'était totalement irréaliste de compter sur 150 points de base de baisse qui était ce que le marché attendait encore au mois de janvier. Mais de manière asymétrique, le grand stress d'il y a 2 ou 3 semaines avec ces discussions effectivement encore minoritaires, mais elles étaient quand même intéressantes, de la possibilité d'une hausse des taux de la part de la Fed, bien ça avait poussé les taux longs très nettement à la hausse. On avait touché les 4,75%. On est repassé en dessous de 4,5%. Je pense que ça fait sens parce que c'est vrai qu'à la différence de l'Europe, les États-Unis font face à des signaux du côté de l'inflation qui sont quand même moins clairs. On a eu 3 mois de mauvaises données du côté de l'inflation aux États-Unis, alors que du côté européen, les choses vont quand même plus clairement dans la bonne direction. Donc, que la Fed prenne son temps, ça me paraît tout à fait juste et normal. Maintenant, de là à s'attendre à ce que la Fed ne puisse pas du tout baisser ses taux ces années, ça me paraît assez exagéré. On a eu un PIB au premier trimestre qui était un tout petit peu faiblard, si je puis dire, en tout cas qui était en deçà du taux de croissance potentiel de l'économie américaine pour la première fois depuis la fin 2022. On pouvait dire c'est accidentel, mais depuis lors, on a eu des enquêtes, par exemple l'enquête ISM, qui est assez mauvaise, à la fois dans le secteur manufacturier et dans le secteur des services. On a une confiance des ménages qui s'est dégradée aux États-Unis, et puis on a eu ces informations sur le marché du travail, qui reste relativement robuste, mais avec une décélération des salaires assez notable pour le mois d'avril. Donc, moi, j'ai quand même l'impression que les ingrédients sont doucement en train de se mettre en place pour que la Fed puisse baisser ses taux au mois de septembre. Ce qui fait que, à quelques mois près, on aura finalement une assez grande convergence du côté de l'Atlantique.
Et du côté des anticipations de baisse de taux, quel est votre scénario chez AXA? Alors c'est, comme vous l'avez dit, très variable. On voit notamment sur FedWatch que ça bouge de jour en jour, mais il y a une petite majorité qui semble voir une baisse de taux dès le mois de septembre.
Ça, c'est mon cas. Jusqu'à très récemment, on s'attendait à ce que la Fed puisse baisser ses taux au mois de juin. Ça paraît maintenant évidemment très difficile. Donc c'est septembre qui est maintenant notre baseline, qui sera suivi par une baisse supplémentaire de 25 points de base au mois de décembre. Donc deux baisses de taux sur 2024. Et par rapport à là où est le marché aujourd'hui, donc le marché est à peu près à mi-chemin, c'est-à-dire qu'on a un peu moins de baisses de taux qui sont pricées pour 2024. Moi, je suis un peu plus confiant et je pense, par exemple, qu'on pourrait avoir un signal assez net de la Fed dès le mois de juillet, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas de baisse de taux effective de la part de la Fed, mais que le discours de Jay Powell soit si clair que la baisse de taux du mois de septembre devienne vraiment presque gravée dans le marbre.
Comment vous voyez aujourd'hui les marchés actions évoluer, sachant, je le disais en préambule, qu'ils sont sur des plus hauts historiques en Europe? Du côté de Wall Street, ça tient très bien également, alors qu'il y a encore pas mal d'incertitudes sur le plan monétaire, sur le plan politique aux États-Unis. Bref, on a quand même un marché actions qui est très résilient en ce moment.
Alors, du côté européen, ça ne me surprend pas nécessairement parce que on avait une valorisation de marché actions en Europe qui était quand même relativement déprimée par rapport à ce qui se produisait aux États-Unis. Et comme on a l'impression d'un certain rééquilibrage sur la conjoncture, on a eu plutôt une bonne surprise sur le PIB dans la zone euro au premier trimestre. On a plutôt l'impression qu'on est en train de passer un peu de l'autre côté de l'ornière du côté européen, même si je m'attends à des chiffres encore assez médiocres. Donc cette bonne tenue du côté européen ne m'étonne pas vraiment. Du côté américain, là j'ai un peu peur qu'il y ait un enthousiasme un peu exagéré, parce que certes, la perspective de baisse de taux est bienvenue et va bien évidemment soutenir les cours des actions qui sont les plus sensibles qui sont les plus endettées, qui sont les plus sensibles au taux d'intérêt. Mais pour qu'il y ait baisse de taux de la Fed, il faut qu'il y ait ralentissement de la croissance. Et normalement, un ralentissement de la croissance s'accompagne de mauvaises nouvelles du côté des résultats des entreprises. Et c'est ça qui me chagrine un tout petit peu dans le comportement du marché aux US. Cet oubli, quelque part, que pour que la Fed baisse ses taux, ce qui est effectivement central et aujourd'hui la centrale du marché, mais il faut qu'on passe par une phase de croissance faible aux États-Unis. Et ça n'est pas complètement cohérent avec les valorisations actuelles.
Donc plutôt prudent sur la zone Amérique et sur les taux. Quand vous voyez des taux à 4,50, bon, le plus gros est fait. Normalement, les taux longs devraient refluer cette année.
Oui, mais je pense là, c'est un peu la même chose que sur le marché d'action. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore tellement de grains à moudre sur la baisse des taux longs. Parce qu'un point qui, moi, me paraît quand même très important dans tout ça, c'est que même s'il y aura le début d'une baisse des taux de la part des banques centrales, je pense que cette baisse sera contenue, sera très mesurée, que le taux terminal, c'est-à-dire le taux d'intérêt auquel on arrivera à la fin du cycle de baisse, restera beaucoup plus élevé que les niveaux auxquels on était habitués avant le Covid. Et puis surtout, on est toujours dans une phase où les déficits publics, en particulier les États-Unis, sont extraordinairement élevés. Et ça se traduit par une offre obligataire aux États-Unis qui est absolument massive, qui est forte aussi en Europe, mais qui est absolument massive aux États-Unis. On se dirige vers des élections en novembre, bien évidemment. Et du côté des Républicains, par exemple, les projets sont là, d'une prolongation des baisses d'impôts qui avaient été consenties en 2017, qui accroîtrait encore le déficit et donc la pression sur le marché obligataire. Donc je pense que là, le potentiel de baisse, encore une fois, sur la partie longue de la courbe est peut-être un peu limité.
Dernière question, quels sont les signaux, les événements que vous surveillez, les points d'attention aujourd'hui que vous pouvez communiquer pour nos auditeurs téléspectateurs?
Je pense que la clé, elle est vraiment dans le marché du travail américain. C'est ça qui sera, pour moi, le signal le plus important pour la Fed, qui permettra de débloquer, en fait, la situation. Et pour l'instant, donc, on a eu une première indication avec des payrolls du mois d'avril qui étaient décevants. Maintenant, c'est une série qui est très volatile, mais c'est celle que tout le monde va regarder de plus près. Si on s'aperçoit que les chiffres du mois de mai, ceux du mois de juin, confirment cette tendance au ralentissement du marché du travail, là, on pourra, de manière beaucoup plus libre, presser des baisses de la Fed. C'est vraiment là où tout se joue. C'est sur cette résilience, pour l'instant, assez surprenante du marché du travail américain. Si ça devait prendre fin, ce qui est mon scénario central, on pourra vraiment s'attendre à des baisses de taux relativement rapides.
Très clair. Merci beaucoup, Gilles Mouek, de nous avoir accordé quelques minutes aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes chef économiste du groupe AXA, le marché parisien qui évolue sur des niveaux records, donc avec les dividendes. Et puis, du côté de Wall Street, qui a ouvert il y a un peu plus de 20 minutes, la tendance est atone avec un S&P qui est parfaitement stable, un Dow Jones qui grappille 0,16% quand le Nasdaq, de son côté, perd 0,2%. Tout de suite, c'est valeur ajoutée.
BFM Bourse, valeur ajoutée.
Comme tous les jours, valeur ajoutée sur BFM Business, une idée de valeur pour remplir votre portefeuille. Aujourd'hui, c'est Marc-Antoine Barbet qui est avec nous, gérant action Small et Mid Cap chez MCA Finance. Bonjour Marc-Antoine Barbet, merci d'être avec nous sur BFM Business. Aujourd'hui, vous nous proposez de jeter un coup d'œil sur Trigano.
Trigano, c'est le leader européen des véhicules de loisirs, notamment sur les camping-cars, même s'ils ont aussi une partie sur les caravanes, les remorques et les autres équipements extérieurs. La société, elle a réalisé pour son exercice 2022-2023, puisque, pour rappel, elle clôture en décalé à fin août, un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros. La croissance, elle est assez régulière chez Trigano. Ça a été aidé par les acquisitions, notamment chez les concessionnaires ces dernières années, pour grappiller des parts de marché. Et si je vous parle aujourd'hui de Trigano, c'est surtout parce que la dynamique, elle est très bonne chez eux. La publication mardi prochain de leurs résultats semestriels devrait être de très bonnes factures. Le chiffre d'affaires a déjà été publié, il est en progression de 18% et la société elle a déjà annoncé que la profitabilité serait meilleure ce trimestre par rapport au S1 de l'an passé, donc c'est plutôt de bon augure. Et ces bons résultats, ça s'explique surtout par une demande importante des primo-accédants sur leurs principaux marchés, que sont la France et l'Allemagne.
C'est un titre... Oui, pardon, allez-y.
Non, je disais, moi ce qui me plaît sur la société, c'est que en fait, Trigano n'a pas de dette, elle a même près de 500 millions de cash excédentaires, ce qui représente aujourd'hui environ 18% de sa capitalisation. Et la société a donc un matelas de sécurité assez important qui peut lui permettre de poursuivre sa stratégie de croissance externe. Et quant aux marges, elles augmentent régulièrement pour atteindre plus de 12% de marge opérationnelle, ce qui ne fait que renforcer son bilan.
C'est une valeur dont on parlait beaucoup à la sortie des confinements. On se souvient que la reprise avait été très forte en 2020, 2022 et même 2021. Qu'en est-il aujourd'hui? Pourquoi vous avez choisi de vous intéresser à cette valeur?
Alors justement, il y a un autre sujet d'actualité concernant Trigano. C'est l'attente de la validation de l'autorité de la concurrence pour le rachat de la branche mobilhome de Beneteau, qui s'appelle Biohabitat. Et cette branche, qui représentait un peu moins de 15% du chiffre d'affaires de Beneteau, pourrait permettre à Trigano d'ajouter un peu plus de 300 millions d'euros à leur chiffre d'affaires. Et si cette acquisition, ça se concrétise, ça va aussi permettre à Trigano de réaliser des synergies importantes, notamment pour l'approvisionnement auprès de leurs fournisseurs, puisque les métiers sont assez proches. Vous le voyez, la dynamique est assez positive chez Trigano. Et puis, sur la valorisation, elle est vraiment clairement attractive, hein, puisque le groupe affiche une décote historique de valorisation de plus de 40% par rapport à ses multiples de ces 5 dernières années, puisqu'on se paye aujourd'hui environ 5 fois son EBIT estimé pour l'année en cours. Et avec un PER de 7, un ROCE de plus de 20%, un free cash flow de 12%, la valorisation nous semble clairement attractive. Donc nous, on est à l'achat sur le titre, on vise 171 €, ce qui permettra dans un premier temps, on l'espère, de revenir vers un multiple de ROC de 8 fois, ce qui nous paraîtrait plus cohérent vu les fondamentaux de la société.
147,40 € à l'instant pour ce titre Trigano qui est en léger recul de 0,3%. Voilà donc pour les points positifs. Est-ce qu'il y a des points d'attention peut-être, Marc-Antoine Barbet, à avoir en tête avant d'acheter ce dossier Trigano?
Alors, il faut toujours avoir en tête que Trigano est quand même assimilé à la consommation discrétionnaire. Bon, aujourd'hui, la dynamique elle reste très bonne, puisque notamment portée par... une demande assez importante sur les primo-accédants qui peut être un relais de croissance assez intéressant pour les prochains mois et les prochaines années.
Marc-Antoine Barbet, gérant action Small et Mid Cap chez MCA Finance, qui était avec nous hier après-midi afin de faire un focus sur ce titre Trigano. Très courte pause, dans quelques secondes il sera 16h, ça sera l'info éco. Et puis bien sûr on reviendra sur les valeurs qui font l'actualité aujourd'hui. Et puis surtout sur cette tendance très solide à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui entame aujourd'hui une 5e séance dans le vert, au-delà des 8100 points, 8173 points. Quand du côté du DAX à Francfort, c'est un record historique, idem pour la Bourse d'Amsterdam. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.